Approchez. Plus près.
À trois, ouvrez les yeux et dites-moi ce que vous voyez. Un, deux.
Libradio, www.libradio.org. Un regard beau comme un prolétarien, sur un monde turbide comme un bourgeois. Quitte la fange, rejoins la gang. info@libradio.org.
C'est la journée de clôture du festival L'Azanzon, c'est la galère. On le rappelle, L'Azanzon, c'est la galère, deuxième édition en 2019. C'est un festival solidaire, anticarcéral, dont les aspirations, dont les desseins sont de réunir une somme d'argent la plus forte, la plus haute possible. Et c'est pour ça que l'on fait un appel aux dons d'argent, pour pouvoir soit amenuiser, soit réduire, soit complètement stopper des peines de prison de personnes qui sont en difficulté, qui sont incarcérées. Nous aurons aujourd'hui, nous avons eu hier déjà un témoignage, deux témoignages d'anciens détenus, et nous aurons également aujourd'hui deux témoignages de personnes qui sont sur la corde raide et également une personne qui a connu un emprisonnement à Chandelon cette fois-ci. Et nous recevons aujourd'hui Lorraine et Moriane, bienvenue, bonjour à vous.
Bonjour. Merci, bonjour.
Alors vous êtes toutes les deux, vous faites partie de REPERE, donc REPERE est un acronyme qui désigne Relais Enfants Parents Romand.
Exactement.
Ex-Carrefour Prison, et qui se trouve en fait, qui est un chalet qui se trouve dans les abords immédiats de Chandelon, si j'ai bien compris, même maintenant équidistant de Chandelon, Curabilis et La Brenna.
Exactement. On a, entre autres, à Chandelon, différents lieux d'accueil en Suisse romande. On a maintenant 8 lieux d'accueil devant 12 établissements, devant les différentes prisons. On vient de déménager en fin d'année passée notre petit chalet, qui était le premier lieu d'accueil en Suisse romande, où une équipe de bénévoles accueille du lundi au samedi, tous les après-midi, les familles qui viennent en visite à Chandelon, Curabilis et La Brenna.
D'accord. Alors, on va revenir, bien entendu, sur cette infrastructure là, mais avant cela, peut-être que nous pourrions faire un tracé, en tout cas les contours, les silhouettes de la fondation REPERE. Quelles sont ses postures et ses objectifs?
Volontiers, je tente, mais tu me complètes dans ce quiz. La fondation REPERE, comme vous le disiez à la base, c'était Carrefour Prison à Genève, où il y a maintenant 15 ans, on a ouvert le premier lieu d'accueil qui était le chalet. Et puis, il y a eu deux choses. Une dont je pense Moriane pourra vous parler un petit peu plus, où on a constaté, suite à l'accompagnement d'une petite fille qui avait ses deux parents en détention, en même temps, qu'il y avait un besoin de soutien spécifique aux enfants. Et puis, où, suite à ça, on a pu mettre en place le projet, le programme Focus Enfants au sein de la Fondation. Et puis, le chalet, qui est le premier lieu d'accueil, qui a permis la mise en place du programme Info Famille, où maintenant, on est sur l'ensemble de la Suisse romande, une dizaine de collaborateurs professionnels et une soixantaine de bénévoles à proposer aux familles qui ont un proche en détention du soutien, de l'écoute et puis de l'orientation un peu là autour.
D'accord. Quels sont les corps de métier que l'on retrouve à REPERE? Au chalet, par exemple, y a-t-il des assistantes et assistants sociaux? Y a-t-il d'autres fonctions? Et lesquelles, si c'est le cas?
Alors, au niveau des professionnels, on n'a pas deux personnes avec le même parcours. Puis je pense que ça, c'est aussi la richesse de ce qu'on peut proposer. C'est justement cette diversité-là. Moi, j'ai une formation de juriste, on a une assistante sociale, on a des psychologues, on a, comme Moriane, des spécialistes autour des questions du droit de l'enfant, des intervenants socio-éducatifs, des personnes spécialisées autour de la petite enfance. Donc, on a vraiment un joli mélange qui permet, en fonction des besoins, d'orienter le mieux possible. Et puis, dans les lieux d'accueil, là, c'est des bénévoles qui sont présents, donc du coup, où on a vraiment tout. Dans ce qui les a motivés, ce qui les a amenés dans leur parcours, où on avait aussi envie de donner comme message à ces familles, de dire mais vos co-citoyens, vos voisins potentiels, ils sont là pour vous soutenir, et dans un premier temps, il n'y a pas forcément besoin de professionnels pour vous accompagner dans cette période.
D'accord, mais les bénévoles qui viennent, alors déjà, après vous allez nous dire si vous en avez besoin, si l'équipe devrait être complétée.
Volontiers.
Mais sont-elles accompagnées, formées? J'imagine que c'est quand même compliqué d'entrer quand même en relation, enfin, pas compliqué, mais peut-être en tout cas délicat, d'entrer en communication avec des personnes qui arrivent et qui sont, et on, je vais vous interroger à propos de vous questionner par rapport à ça tout à l'heure, dans, un, dans une situation peut-être de, un petit peu délicate.
C'est sûr qu'on ne les laisse pas à l'abandon, on les recrute, on les informe déjà lors d'un premier entretien. Et puis ensuite, une fois qu'ils commencent leur bénévolat, déjà, ils sont toujours par deux. Et puis, ils ont un bout de formation, ils ont un document qu'on leur livre avec les informations qui concernent la prison devant laquelle ils sont, ou les prisons, avec tous les renseignements vraiment techniques, pratiques, du type « qu'est-ce que j'ai le droit de mettre dans mon colis ?»« À quelle heure est la visite ?» etc. Et comment c'est dedans. Et puis ensuite, il y a des réunions bénévoles à peu près tous les mois avec toute l'équipe, où là, ben, c'est l'occasion d'échanger sur les personnes qu'ils ont rencontrées, les questions qui sont venues, et puis de donner un bout de réponse aussi. Et puis une fois par année, il y a une journée de formation qui réunit tous les bénévoles de Suisse romande, où là, on travaille aussi sur les questions de famille et de proches de détenus, et de comment est-ce qu'on peut les soutenir au mieux.
D'accord. Et est-ce que vous êtes perpétuellement en recherche de bénévoles ?
Oui.
Moi, c'est clair.
En résumé, oui, ouais. on a toujours besoin de force. On recherche toujours des forces supplémentaires dans le canton de Genève. On est actuellement ouvert du lundi au samedi. On essaye tous les après-midi, mais c'est vraiment basé sur les disponibilités des accueillants. Donc de temps en temps, on est obligé de fermer. Et puis, il y a aussi des visites le dimanche qui se font à Chandelon notamment. Et puis actuellement, on n'est pas présent. Donc avec des forces en plus, on pourrait ouvrir ce jour. À Chandelon, entre autres, le dimanche, c'est les femmes qui reçoivent leurs visites. Donc ça serait aussi très intéressant et riche pour nous de pouvoir proposer cet accueil-là.
Ah ben, carrément, ouais. Quels sont les prérequis, s'il y en a, pour devenir bénévole au sein de Repère ?
Je crois que le principal, c'est la bienveillance.
D'accord. Patience et bienveillance.
Exactement. Il faut cette envie de découvrir un bout du système carcéral. On va l'expliquer, comme le disait Mauriane, mais il faut avoir envie de le comprendre un petit bout. Donc ça principalement, et puis ensuite ben, vous le disiez aussi, il faut avoir envie d'aller auprès de ses familles, de se renseigner, de discuter avec elles, donc d'avoir ce regard là. Et puis le reste, nous on donne les outils, donc, okay.
Les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient, ou qui sont là autour de nous et qui pourraient également vous questionner à tout hasard, hein, n'hésitez pas à vous manifester, si elles souhaiteraient devenir bénévoles, comment elles procèdent?
Alors, il faut prendre contact avec nous à la Fondation. Je peux volontiers laisser les coordonnées, nous écrire un mail à info@repere.ch. Et puis, en général, on demande un CV, une brève lettre de motivation, histoire d'avoir un peu une idée du parcours. Et puis ensuite, on propose un entretien pour discuter un peu plus.
D'accord, ça peut aller relativement vite.
Oui.
Y a-t-il des anciennes ou des anciens détenus qui vous contactent ? En se disant, tiens, moi, j'ai compris que ça m'a bien aidé parce que je sais que mon réseau extérieur a pu, par le biais de Repère, justement, m'aider. Et ben j'ai envie de redonner, de redistribuer un truc, quoi.
Oui, alors, on a et des anciennes personnes en détention qui nous contactent et des familles qui ont eu un proche en détention qui ont pris contact avec nous. On en a quelques-uns dans l'équipe, mais vraiment peu. Je pense, pour nous, ce qui va être important, là, de s'assurer, c'est qu'est-ce qu'ils viennent. Qui sont en mesure, avec ce qu'ils ont vécu, de venir vraiment accueillir pour les familles et pas de venir revendiquer des choses pour eux dans ce moment-là. Et puis de pas faire du travail personnel. Je pense, dans ce bénévolat, ça peut être quelque chose d'assez lourd. Et puis nous, on va aussi protéger nos bénévoles. Mais si on a l'impression que de part et d'autre, ça peut fonctionner, en soi, on n'a aucun problème là autour. On va juste s'assurer, entre autres, que ça ne pose pas de problème avec l'établissement. Alors à Chandelon, ça ne sera pas le cas parce qu'ils ne rentrent pas dans le périmètre. Dans d'autres établissements, typiquement à Orbe, on propose également une navette parce que les établissements de la Plaine de l'Orbe sont très difficilement accessibles en transport public. Et puis du coup, les bénévoles conduisent un petit bus 9 places pour rapprocher un petit peu la gare. On propose ça maintenant aux EPO, à La Croisée, à Sion et à Bellechasse. Et puis là, du coup, les bénévoles rentrent dans le périmètre de sécurité des établissements et déposent les familles directement là. Et puis du coup, dans certains établissements, les personnes qui ont fait de la détention ont un temps d'attente avant de pouvoir revenir. Donc ça va nous imposer des règles, en fait.
D'accord. Ça me permet de t'interroger sur ces... de te questionner, pardon, sur ces 8 lieux d'accueil différents. Donc tu en as cité la plupart, mais lesquels sont-ils ? Si vous arrivez à faire le petit listing.
Alors à Genève, du coup, c'est le chalet qui est devant la Brenna, Chandelon et Curabilis. On a une caravane qui est devant la croisée, qui est dans la plaine de l'Orbe, qui dessert aussi du coup les établissements de la plaine de l'Orbe. À Sion, on a un petit mazo qui est juste en face de l'entrée de la prison. À Fribourg, devant la prison centrale, on a aussi une caravane.
À Bellechasse, du coup, aussi, qui est dans le canton de Fribourg.
À Lausanne, on a une caravane devant la prison du Bois-Mermet.
Et puis, il reste encore Neuchâtel, où on est présent devant l'établissement d'exécution des peines de Gorgier, et puis la détention préventive et exécution de peine à la promenade, à la Chaux-de-Fonds.
D'accord. Y a-t-il des associations, des fondations PAIR, PAIRS, avec lesquelles vous seriez en contact et avec lesquelles vous échangez sur vos pratiques ? En connaissez-vous ou pas ?
Alors oui, mais dans tous les cantons, ça va vraiment être des institutions qui sont différentes et en fonction des besoins. Donc il n'y en a pas une à laquelle je pense où on collabore systématiquement. On a vraiment, je pense, notre collaboration principale et vitale, c'est avec les établissements.
C'était la question qui allait venir, bien entendu. Alors je te laisse enchaîner. Qu'en est-il ? C'est la direction générale de l'Office cantonal de la détention, c'est avec eux que vous parlez ?
Alors, entre autres, c'est sûr que dans chaque canton, il y a vraiment un peu ce système où il y a la direction générale. Et puis ensuite, on va s'adresser en général plutôt aux politiques pour demander s'il y a un soutien possible là autour. Et puis ensuite, on va regarder au fur et à mesure avec les directeurs de chaque établissement de voir ce qui est possible de mettre en place dans leur établissement, aussi bien au niveau accompagnement des enfants qu'accueil pour les familles. Ou vraiment... C'est primordial de collaborer avec eux, notamment dans cette information qu'on fait aux familles. Nous, il faut qu'on connaisse comment ça va chez eux, quel est le quotidien d'une personne en détention, quelles sont les règles pour les familles, parce que ça va vraiment être ça, notre job, de pouvoir dire à une famille avant votre visite, est-ce que vous savez qu'il faut que vous déposiez cette affaire, vous ne pourrez pas prendre ça avec vous. Ça va permettre d'apaiser avant une visite, puis de faire que la visite se déroule le mieux possible.
Absolument, on va y venir sur les personnes, les visitantes et les... visitants.
Oui.
Avant ça, je voulais encore vous questionner sur les rapports que vous avez avec les administrations, justement, au pénitentiaire. Est-ce que ce sont des rapports apaisés ? Est-ce qu'il y a des points de tension de temps en temps ? Comment est-ce que ça se passe ?
Alors, en tout cas, pour l'accompagnement d'enfants, ça se passe très bien. Nous, on a besoin d'eux. On joue le jeu. On a besoin de ces règles aussi de sécurité pour notre sécurité, pour la sécurité des enfants. Donc, on est vraiment là en collaboration avec eux. Par exemple, quand nous, on accompagne des enfants en visite, on aura peut-être le temps d'en parler après, on apporte des jeux, et puis nous, on a besoin qu'ils vérifient ces jeux, on n'est pas responsable de cette sécurité-là, puis du coup, nous, on a besoin d'eux aussi pour ça.
Mmh, d'accord. Pardon, tu voulais compléter ?
Oui, c'était de dire, du coup, juste au niveau de l'accompagnement des familles, on a plusieurs établissements qui nous disent, eux, ils savent que ça se passe mieux, pour eux aussi, une visite qui se passe bien. Ça s'est bien passé avec le personnel pénitentiaire. La personne en détention, elle retourne aussi en cellule plus calme si sa visite s'est bien passée. Et puis, leur job, c'est pas les familles, c'est pas une critique de leur job, c'est juste, c'est pas dans leur cahier des charges. Et puis, du coup, en général, ils sont plutôt assez réceptifs quand on propose nos services à mettre une collaboration pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde.
Y a-t-il des points de tension, justement ? Je pensais à des questions, des doléances, par exemple, qui seraient faites par les personnes qui se rendraient en prison et qui diraient voilà, là, j'ai la sensation que le droit des prisonniers est bafoué d'une certaine manière. Y aurait-il moyen de changer ça ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça également ? Qui surviennent.
Alors ça arrive que des visiteurs ne soient pas satisfaits, se plaignent. Nous, on n'est pas là pour militer pour eux. On peut les réorienter vers les différents services qui pourraient faire ça éventuellement. Mais nous, on va plutôt être là pour essayer de fluidifier ces entrées, puis d'expliquer, puis de dire, voilà, ben, effectivement, il faut enlever ça quand on va à la visite, c'est une règle. Et puis on peut essayer d'expliquer, mettre des mots sur les règlements et réorienter. Mais nous, on ne va pas, je crois, militer.
Non, c'est pas, bien sûr, chacun, bien sûr. Comme vous disiez, il y a un mandat et tout. Enfin, l'architecture, est-ce que c'est important ? Parce que quand je vous ai entendu parler de ces différents lieux, j'ai entendu mazo, chalet, caravane. C'est tout à fait singulier comme infrastructure. On pourrait imaginer à d'autres choses. Alors, est-ce que c'est fait à dessein ? Est-ce que vous avez pensé à ça en disant ça permet effectivement un apaisement d'une certaine manière, un accueil plus bienveillant, plus inclusif ? Ou il se trouve que c'est comme ça, puis c'est tout ?
Alors, c'est sûr que de sortir un petit peu du cadre de ces établissements, c'est aussi chouette, puis de pouvoir proposer quelque chose d'accueillant. Maintenant, on s'est vraiment adapté en fonction de ce qui était possible dans chaque établissement.
Ouais.
Et puis, ça s'est fait un peu naturellement dans le mazo, c'est un conteneur de chantier en soi, mais on a trouvé sympa de lui donner un joli petit nom.
Vous l'avez nommé quand même de cette manière-là, c'est pas anodin.
L'idée, c'est vraiment de... Notre but, c'est d'être accueillant et puis de proposer un moment qui est agréable pour ces familles et puis où elles sont libres de venir, de discuter. Et puis si le nom est accueillant, ça donne
un
premier
plus.
Message.
Mais absolument. Qui vient vous voir? De quelle manière ces personnes-là ont-elles compris qu'elles pouvaient venir vous voir? Et quel est leur état d'esprit, hein, ces personnes, quand elles arrivent? Dans l'ordre, hein, tranquillement. Alors, qu'est-ce qui vient vous voir? C'est les familles complètes en général? C'est des compagnes, des femmes d'eux, des épouses, des enfants d'eux? Comment?
Alors, dans les lieux d'accueil?
Oui.
Dans les lieux d'accueil, c'est généralement des gens qui ont un proche en détention et qui, la plupart du temps, vont en visite ou essayent d'amener un colis ou quelque chose comme ça. On a parfois des gens qui ne viennent pas du tout en visite, qui viennent juste poser des questions aussi. Mais quand même, je dirais, la majeure partie des visiteurs, c'est des gens qui ont prévu d'aller rencontrer leurs proches en détention.
D'accord. Et alors, ces personnes-là, quand elles arrivent, dans quel état d'esprit sont-elles? Est-ce qu'il y a vraiment un premier travail qui consiste à les accueillir de manière la plus bienveillante possible? Est-ce que souvent, elles arrivent fâchées, tristes, en panique? Comment c'est?
Alors, je pense que ça, c'est la question la plus compliquée à répondre. parce que vraiment, on va avoir des personnes qui viennent avec tellement d'états d'esprit différents et tellement de questions différentes. Je pense que celles qui vont le plus souvent venir à l'esprit des gens quand on parle de ça, c'est des gens qui vont être tristes, qui vont être fâchés contre le système. Mais en fait, on a aussi une grande partie de gens qui vont être soulagés. Soit c'est des tensions à la maison qui s'arrêtent, soit c'est des gens où tout d'un coup on sait où ils sont, on sait qu'il est là, on sait qu'il est pris en charge, où on ne savait pas très bien comment ça se passait à l'extérieur. Donc il y a aussi parfois des détentions qui font du bien dans certains parcours de vie et puis dans certaines familles. Puis on a de temps en temps des gens qui nous disent « Ah mais ok, je sais qu'il est là et puis je l'ai retrouvé ». Des gens en début de détention qui cherchent souvent leurs proches puis qui viennent vers nous en disant « Mais j'ai appelé tous les hôpitaux, je ne l'ai pas trouvé, je me demande s'il n'est pas en détention ». Et puis après, ben oui, il y a cet énervement, il y a ces questions de qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il est là. Je crois beaucoup de questions autour de la durée. Et puis on va avoir des questions très pratiques.
Oui.
Comment va se passer la visite? Qu'est-ce que je peux prendre avec moi? Est-ce que ces citrons, je peux les amener dans les colis? Il adore ce morceau de viande, est-ce que ça, je peux le lui amener? Donc ça va être ces questions-là qui vont venir.
Absolument. Alors justement, là aussi, je vais vous questionner encore après, un petit peu plus tard, par rapport au type de colis. Parce qu'on sait, effectivement, pour préparer le festival, et déjà l'édition antérieure, nous avions un petit peu enquêté, on s'était rendu par ailleurs visiter notre camarade, et puis on s'était aperçu qu'il y avait des règlements quand même assez compliqués, notamment pour les envois de colis alimentaires, non alimentaires, pour le conditionnement de ces colis, pour plein de choses qui en fait nous ont apparu à nous autres qui étions totalement profanes en la matière, extrêmement, ça nous avait quand même surpris en disant mais ce colis est vraiment transparent, on voit tout ce qu'il y a dedans, donnez-lui quoi, c'est pas un problème, c'est de la BD quoi, enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc après, j'aimerais bien, ou peut-être des gens vous questionneront à ce propos-là, mais j'aurais voulu, pour terminer le petit triptyque de questions là, que je vous avais posées, savoir de quelle manière est-ce que les gens avaient connaissance de votre existence. Est-ce que c'est en déambulant devant, et on voit, et on se rapproche, et on se dit qu'est-ce que c'est, ou est-ce que c'est par d'autres biais? Ce que j'ai sous-entendu, l'administration pénitentiaire informe-t-elle les prisonniers et les familles de prisonniers que vous existez?
Alors généralement, les établissements, il y a quand même des flyers et de l'information à disposition sur notre existence. Puis effectivement, le chalet, il est quand même assez visible. Si on vient en voiture, quelle que soit la prison à laquelle on se rend, on passe devant. Et puis c'est un peu la seule chose devant laquelle on passe en allant à la prison. Et puis, je disais, donc, des fois, il y a des personnes qui viennent avec des questions très précises. Et puis des fois, il y a juste des gens qui viennent en avance parce qu'ils ont peur d'arriver en retard. Et puis, on sait qu'en prison, si on arrive 3 minutes en retard, ben,
on n'entre plus.
On n'entre plus. Mmh. Et du coup, ça peut être aussi juste de venir attendre au chaud sans avoir forcément besoin ni de parler, ni de poser des questions, mais de juste mettre à l'abri aussi un peu des regards dans un endroit un peu plus chaleureux que juste devant une porte de prison.
On a nos bénévoles, entre autres, qui vont devant les portes de Chandelon 10 minutes, 15 minutes avant l'horaire de visite et qui vont se présenter aux familles. Et puis qui, du coup, par ce biais-là, vont favoriser qu'elles nous connaissent et puis qu'elles savent, si elles le souhaitent, qu'elles peuvent bénéficier de notre présence. C'est sûr que c'est tout un travail avec les établissements, bien sûr, de faire qu'on soit le plus rapidement mentionné. Mais on a vraiment ces liens qui font que de plus en plus régulièrement, on a des familles qui nous viennent en disant « Mais c'est l'agent de détention qui m'a vu en sortant en larmes du parloir, qui m'a conseillé de venir vous parler, de venir vers vous. »
D'accord. Les compétences linguistiques sont-elles également bienvenues parmi les bénévoles qui vous accostent ?
Je crois que toutes les compétences sont bienvenues, mais effectivement, c'est une population qu'on rencontre qui parfois ne parle pas forcément français. Et puis du coup, évidemment que c'est un plus. Après, ils ont à disposition une tablette qui permet parfois aussi de traduire un bout de vocabulaire.
D'accord. On le sait, en tout cas beaucoup de choses se sont dites sur Chandelon avec ces problèmes de surpopulation. Hier, on a beaucoup parlé de ça avec cet ancien détenu de Chandelon et puis l'autre personne. Et on s'est aperçu que c'est un gros problème mal vécu également par les détenus qui disent, voilà, effectivement, on se sentirait beaucoup plus, beaucoup mieux d'une certaine manière dans l'idée de se réhabiliter, d'avancer et de se réinsérer dans des conditions différentes. Est-ce que ça, vous le ressentez, vous, depuis votre position ? Est-ce que, par exemple, les personnes qui visitent sortent en disant « mais les conditions sont tellement horribles, les matons, on voit bien qu'ils sont sous pression ». Enfin, est-ce que tout ça, c'est quelque chose que l'on sent depuis votre posture ?
Alors, je pense que ça va faire... C'est sûr que la surpopulation à Chandelon, elle fait aussi beaucoup parler d'elle. Donc ça va faire partie des questionnements que les familles peuvent avoir, des craintes qu'elles vont avoir, desquelles on va pouvoir discuter, mais ça comme d'autres, je dirais.
D'accord, c'est pas une obsession, je veux dire.
Okay. Non.
Alors tu l'as dit tout à l'heure, il y a un tel large panel de questions que ce serait difficile, mais j'aurais quand même voulu savoir si, quand les personnes viennent vous voir, y a-t-il quand même une première phase où elles ont un peu toutes les mêmes questions concernant justement la manière dont on accède, dont on traite les colis, dont on va pouvoir faire des choses.
Alors, je pense que les grandes questions avant une première visite, c'est qu'est-ce qui va se passer les 10 prochaines minutes maintenant que je m'annonce là, et entre le moment où je m'annonce et le moment où je retrouve mon proche, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, c'est sûr que ces colis, c'est un joli casse-tête, et puis tu le décrivais très bien. La logique pour nous, elle est parfois un peu relative, et de comprendre pourquoi on a accepté ça et puis ça s'est refusé, il n'est pas évident. Et puis on a souvent des familles qui viennent avec plein de colis. C'est aussi dans beaucoup de cultures une manière de dire à son proche qu'on l'aime. Et puis du coup, il y a certaines choses où c'est difficile quand elles sont refusées de comprendre que ça l'est. Donc là, on va pouvoir vraiment avec les familles les aider à faire leur sac et puis comprendre, et puis les avertir à l'avance, leur dire, ben ça, vous pouvez essayer, mais au vu de la liste, ça va probablement pas être accepté, puis de pouvoir anticiper ce refus, ça permet parfois de calmer un petit peu les tensions. Ces colis, c'est un joli casse-tête, dans chaque établissement, les règles sont différentes, mais c'est sûr que c'est aussi par là qu'il y a plein de choses qui rentrent, et puis quand on est de bonne foi à l'extérieur, qu'on amène des choses, on se dit, mais... Mon Dieu, pourquoi est-ce que ça, c'est pas accepté ? Et puis en général, c'est que c'était une porte d'entrée de quelque chose et puis qu'il y avait une bonne raison de le refuser, mais que ça peut être frustrant quand on l'a amené, ça c'est sûr.
Surtout qu'effectivement, en général, on ne sait pas. Enfin, vraiment, je vous dis par expérience, nous, par exemple, on essaie de les rendre le plus visibles et fouillables possible, mais certaines choses ne passaient tout de même pas et du coup, on était un peu frustrés. Morgane,
je voulais juste rajouter quelque chose. Moi, je travaille plus particulièrement avec les enfants qui ont un parent incarcéré.
Très bien.
Dans les premières questions qu'eux, ils se posent, c'est généralement comment va mon papa ou ma maman ? Est-ce qu'il est habillé tout en orange avec des rayures ? Est-ce qu'il a un boulet au pied ? Comment est sa chambre, en fait ? Est-ce que son lit, c'est un vrai lit ou est-ce que c'est en cailloux ? Est-ce qu'il y a des barreaux qui remplacent la porte comme dans les Dalton ? C'est un peu ce genre de questions... auquel on doit mettre un peu de réalité avant d'aller en visite la première fois.
Ouais, la représentation que se font les enfants de la prison.
Et les adultes aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais été dans une prison et qui imaginent effectivement aussi qu'il y a des menottes aux mains des détenus quand ils arrivent.
Ouais. On avait 10 minutes, est-ce qu'on a encore 10 minutes ? Il est 25, est-ce qu'on dépasse de 5 ? Alors avant qu'on passe, je voulais justement qu'on dise quelques mots sur les colis, l'épicerie et la bibliothèque. Ça, ce sont des choses que les gens peut-être ignorent, qu'il y a au sein de la prison une épicerie, que l'on peut même envoyer des sous pour que la personne puisse acquérir des choses, et qu'il y a également un service de bibliothèque, par exemple. Ça, ce sont des choses que les gens savent, ou est-ce que vous leur apprenez, vous ?
Alors, ça va dépendre des personnes, mais ça fait effectivement partie des informations, en tout cas, qu'on peut leur transmettre. Et puis... L'avantage de l'épicerie, une des raisons pour lesquelles nous, on conseille souvent aux familles, c'est que l'épicerie, du coup, ça va être commandé à l'intérieur. L'établissement fait des commandes auprès de grandes surfaces. C'est au prix du marché, donc il n'y a pas... Mais l'avantage, c'est que c'est livré dans un état où, du coup, c'est pas fouillé. Parce que c'est livré directement depuis la grande surface, donc ils n'ont pas besoin de vérifier si là-dedans. Donc dans ce qui va être remis en cellule à la personne en détention, c'est aussi plus agréable de recevoir ça que ce qui a été complètement fouillé, palpé par des agents de détention pour s'assurer que, que ça réponde aux normes sécuritaires. Et puis l'avantage, c'est que la personne en détention peut du coup choisir ce dont elle a besoin cette semaine-là, ce dont elle a envie, alors que ce qu'on amène en colis, ben, c'est l'imaginaire à l'extérieur qui nous dit « Ah, mais c'est ça qu'il a... » qui souhaiterait cette semaine.
Absolument. Concernant la bibliothèque, là également, vous informez, vous dites que ce service existe en prison et qu'on l'on peut y recourir.
Oui, tout à fait.
Voilà, parce que typiquement, un des détenus nous disait, mais ça, pour notre temps qui s'est considérablement allongé en prison, eh bien, habiter ce temps par la lecture, eh bien, c'est une des vertus, en tout cas, du truc, quoi.
Oui, puis c'est une manière de s'échapper.
Absolument. Alors, justement, on avait demandé à l'époque à l'association bibliothécaire si des livres concernant Papillon, concernant le Comte de Monte Cristo étaient mis à disposition. Et paraît-il, oui, dans une certaine mesure, c'est possible d'avoir des livres qui parlent également de grandes évasions. Concernant le règlement, qu'est-ce qui est vraiment très compliqué ? Parce que nous, à l'époque, je me souviens qu'on s'était confronté à notamment des envois de colis alimentaires qui, eux, ne peuvent être faits que dans une certaine période de temps. Qu'est-ce qui est très compliqué et qu'est-ce qui est quand même plus facile à faire, en général ?
Alors effectivement, ça c'est une spécialité de Chandelon, c'est qu'il y a des périodes pour les colis alimentaires. Donc effectivement, il faut avoir les dates en avance pour ne pas se tromper et arriver au mauvais moment avec le colis alimentaire. Mais ça, c'est vraiment une spécialité de Chandelon.
D'accord, je ne savais pas. Je pensais que c'était un truc global. Parce que en fait, la faim, elle nous habite à tout moment. Elle n'a pas de période, elle.
C'est vrai. Et puis c'est aussi ce qui rend compliqué, c'est le fait que justement, ça change d'une prison à l'autre. Puis des fois, il y a des détenus qui ont un parcours carcéral. Et puis du coup, ben, pour la famille, c'est de réapprendre à chaque fois qu'il y a un transfert tout le règlement qui peut être complètement différent d'une prison à l'autre.
D'accord. Tout d'un coup, quelque chose me vient à l'esprit. On n'a toujours pas dit le site internet Repère Relais Enfants Parents Roman, www.repere.ch. Et il y a le mail de contact, le formulaire de contact pour si on souhaite devenir bénévole. Et toute une série, j'imagine, d'informations. Enfin, moi, j'ai vu le site, c'est tout à fait clair, etc. Voulons-nous parler un petit peu de l'actualité ? Parce qu'effectivement, la Fondation s'occupe de ces lieux, mais également commet des campagnes.
Alors actuellement, je ne sais pas si certains d'entre vous, je vais y arriver, ont vu l'affiche qui circule actuellement à Genève, prison, de l'exposition au musée de la Croix-Rouge, exposition temporaire au musée de la Croix-Rouge. Et puis dans ce cadre-là, on organise un colloque le 19 mars, colloque parentalité et détention. Il y a une nouvelle recommandation au niveau du Conseil de l'Europe autour de ces questions des enfants et notamment du temps qu'il faudrait entre le moment où un parent est incarcéré et le moment où l'enfant a le droit de voir son parent. Et puis, on se positionne vraiment là uniquement du côté du droit de l'enfant et puis qu'est-ce qui est dans son intérêt supérieur. Et puis, on vient là poser différentes questions à des professionnels. Il y aura un procureur, il y aura le directeur général de l'Office cantonal de la détention qui sera présent pour réfléchir un petit peu à comment on peut mettre en œuvre au mieux cette recommandation en Suisse.
Très bien, très bien. Concernant les enfants, justement, peut-être encore en dire un mot avant qu'on termine et puis qu'on livre un micro aux personnes qui souhaiteraient poser des questions. Un accueil spécial est mis en place concernant les enfants, et c'est très bien. Comment se passe l'accueil des enfants ?
Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment au niveau professionnel que cet accueil des enfants se joue. Ça n'a rien à voir, en fait, avec les lieux d'accueil qui sont devant les établissements. On s'est rendu compte que les enfants, ils étaient particulièrement touchés par la détention d'un parent et qu'il fallait prendre soin de cette population. Et ainsi aussi de leurs parents, des parents, autant les parents qui sont en détention que le parent hébergeant. Et nous, on est là pour ces familles qui vivent cette séparation et puis pour les soutenir au mieux. Alors nous, on peut les rencontrer dans nos bureaux, on peut avoir des entretiens téléphoniques, des mails. Et puis une partie de notre soutien, c'est aussi d'accompagner les enfants, voir leurs parents en détention. Si et seulement si on évalue que c'est dans l'intérêt de l'enfant de maintenir un lien. Et du coup, on peut proposer des visites aux enfants, à leurs parents, des visites qui sont vraiment adaptées aux besoins et à l'intérêt de l'enfant. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, on peut amener des jeux pour un peu médiatiser parfois la relation dans le parloir, parce que ce n'est pas forcément tout simple pour un enfant de se retrouver en face à face avec son papa qu'il n'a pas vu depuis quelques mois, entre-temps qu'il a commis un délit, et d'être assis face à face à une table et de devoir parler pendant une heure. Et du coup, on est là aussi un peu pour médiatiser ces relations et pour faire en sorte que ça se passe au mieux pour l'enfant. On fait des visites aussi en groupe avec plusieurs enfants qu'on accompagne, voire plusieurs parents en détention, pour aussi qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils puissent échanger avec d'autres enfants et voir que voilà, ils ne sont pas tout seuls à vivre ça.
C'est génial. Vous recourez à des services de ludothécaires ou de ludothèques ?
Tout à fait. On a un accord avec la ludothèque de Sécheron qui nous prête des jeux sur une plus longue durée que pour les prêts standards. Parce que justement, on doit passer toutes ces étapes de sécurité. Puis une fois qu'on les a apportés dedans, ben, on essaie de les garder quelques mois. Après, on les change quand même régulièrement parce que, ben, en fonction des enfants qu'on accompagne, on essaie de s'adapter à leur âge et à ce qu'eux, ils ont envie de faire aussi pendant ces visites. On leur demande justement quand on les rencontre, ben, qu'est-ce que tu faisais avant avec ton papa ou avec ta maman ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais refaire pendant la visite ? Et puis, dans certaines prisons, on a des possibilités vraiment d'adapter ces visites, de pouvoir faire un bricolage, de pouvoir faire de la pâtisserie. On va bientôt faire un parloir de pâtisserie la semaine prochaine.
À Chandelon ?
Non, pas à Chandelon, dans une autre prison. Mais il y a plein de possibilités dans les prisons de faire des choses pour les enfants, pour que la relation se passe au mieux possible. On peut faire des fois des photos de famille qu'on peut imprimer, qu'on peut repartir avec, et le parent et l'enfant.
Et ce qu'on observe justement, le fait que ça aille mieux pour les enfants, ce travail-là, vous en sentez, ressentez les résultats ?
Oui, tout à fait. Bah, déjà, il y a des enfants qui, sans nous, ne pourraient pas voir leurs parents parce qu'ils n'ont personne pour les accompagner. Et puis, des fois, on a des gens qui nous contactent parce que c'est trop difficile, ça ne se passe pas bien. Et puis, notre travail permet que ça se passe au mieux.
Souvent, les personnes viennent vous voir une fois ou elles viennent continuellement, régulièrement vous voir pendant la peine, pendant que la personne, exécute sa peine.
Alors, je pense que la réponse, elle va vraiment varier entre Morianne et moi. ou dans le sens... Moi, je m'occupe vraiment plus de ces familles à l'extérieur, dans les lieux d'accueil. Et puis où, là, on en a certaines qu'on voit de manière très régulière, mais beaucoup qu'on rencontre une ou deux fois. Puis, heureusement, après, la détention ne se prolonge pas ou pour une raison ou pour une autre, on n'a plus de nouvelles. Puis c'est un moment où il y a beaucoup de questions dans lesquelles on peut aider.
Tandis que nous, quand on a une demande, effectivement, on va rencontrer une demande d'accompagnement, on va rencontrer l'enfant ainsi que ses parents, parents hébergeants, parents en détention, ainsi que le réseau, avoir des contacts avec toutes les personnes qui sont en lien avec cet enfant pour justement évaluer la pertinence et l'intérêt de l'enfant dans les visites. Mmh. Et ensuite, une fois qu'on rentre dans le processus de visite, on va vraiment revoir la famille, l'enfant régulièrement, faire des points de situation jusqu'à la fin de l'accompagnement. Donc là, vraiment, on a un vrai suivi.
Donc
sur
on voit
les enfants qu'on accompagne.
Ouais. C'est deux choses quand même un petit peu différentes. On arrive au terme de l'entretien, parce que vous êtes occupé après. Et voilà. Alors rapidement, est-ce que vous auriez un appel à lancer ?
Alors volontiers, s'il y a des bénévoles parmi vous qui nous écoutent, qui sont intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Si vous êtes avec un proche en détention également, n'hésitez pas, on est volontiers à disposition. Venez dans un de nos lieux d'accueil ou contactez-nous et puis on essaiera de vous renseigner ou de vous aider le mieux possible.
L'actualité, c'est donc au Musée international de la Croix-Rouge, Avenue de la Paix.
Oui, colloque le 19 mars, parentalité et détention. Et puis, il faut juste s'inscrire. Toutes les informations sont sur notre site internet, mais l'inscription est nécessaire pour cette journée.
Mais l'accès gratuit ?
Non.
Non, ah pardon.
Non.
voudrais-tu préciser alors, tu sais...
Oui, non, c'est... Maintenant, je ne me souviens plus tarif pour la journée. Mais oui, c'est une journée de formation.
D'accord.
Donc c'est payant pour la journée.
Ok. D'accord. Des questions parmi nous ?
Alors, en fait, quel est votre parcours personnel qui vous a amené à vous intéresser à cette problématique ?
Alors, moi, j'ai fait un bachelor en sociologie et au cours duquel j'ai suivi un cours de criminologie avec un professeur qui sera là pendant notre colloque et qui m'a donné l'intérêt... De la question. Et puis ensuite, j'ai continué mon parcours avec un master interdisciplinaire en droit de l'enfant. Du coup, je me suis orientée plus sur le côté enfant.
C'était Morianne. Et toi, Lorraine ?
Et moi, j'ai fait une formation en droit. Et puis, dans le cadre de mes études, en fait, j'ai fait du bénévolat au chalet pendant mes 4 années de droit et je ne suis jamais partie.
on y reste.
Exactement. Moi, j'ai pris avis, mais pour l'instant, ça me convient plutôt bien.
Alors, merci beaucoup, Morianne. Merci beaucoup, Lorraine. Bon courage pour la suite.
Merci pour l'invitation.
À la prochaine.
Bonne soirée.